pour mettre en place un système de collecte de données, parce que les données pour nous sont très importantes. C'est ce qui nous permet d'apprécier objectivement la mise en œuvre de la convention par l'État parti. Et donc, c'est quelque chose de positif. Mais je voudrais à ce stade pouvoir poser la question de savoir, parmi toutes ces mesures coercitives unilatérales, est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes qui ont un impact particulier sur les travailleurs migrants, c'est-à-dire la catégorie de personnes qui intéressent notre comité? Quelles sont donc ces mesures coercitives unilatérales qui ont le plus fort impact négatif, cela s'entend, sur la situation des travailleurs migrants? Et est-ce que nous pouvons donc espérer que des mesures soient prises ou ont déjà été prises pour atténuer et donc cet impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur l'effectivité des droits des travailleurs migrants qui sont au Venezuela, mais également les Vénézuéliens qui sont travailleurs migrants dans d'autres pays de destination. Donc ça, c'est la première question concernant les mesures coercitives unilatérales. En ce qui concerne les accords de gestion de la migration, j'ai lu également que le Venezuela a passé certains accords, notamment par exemple avec l'Organisation internationale sur les migrations. J'ai vu qu'il y a un programme de migration sélective qui a été signé donc avec l'OIM en 1993, avec pour objectif d'accueillir des migrants qualifiés afin de leur permettre de contribuer au développement économique et social de la République bolivarienne du Venezuela et d'offrir à ces migrants de nouvelles perspectives pour qu'ils mettent en œuvre, ils mettent en tout cas leur potentiel en termes de connaissances et de capacités au profit donc du développement de votre pays. Ma question, c'est de savoir, 20 ans après, parce que cet accord-là date de 1993, non, c'est 30 ans, je crois. Et donc, après tout ce temps, qu'est-ce que vous pouvez faire comme bilan en ce qui concerne la mise en œuvre de cet accord? Est-ce que vous pensez qu'il a pleinement atteint ses objectifs ou pas du tout? Et en tout état de cause, est-ce que ce programme de migration sélective, dans sa mise en œuvre, rencontre des difficultés et quelles sont-elles? Et quelles sont les solutions qui sont envisagées pour donc surmonter toutes ces difficultés? Et cette question est valable aussi pour d'autres accords. Notamment, j'ai vu que depuis 1978, avec le Portugal, vous avez une convention opérationnelle sur la migration. Et il y a également une convention opérationnelle avec le Royaume d'Espagne. Et donc, ces questions aussi s'adressent à toutes ces conventions. Quel bilan vous pouvez en faire de façon globale? Est-ce que cela a apporté quelque chose de positif dans la situation des travailleurs migrants dans votre pays? En ce qui concerne la privation de liberté, j'ai pu lire également que au Venezuela, il n'y a pas de centre de rétention de migrants. C'est une très bonne chose. Et vous avez aussi énuméré un ensemble de mesures qui sont applicables aux personnes qui sont sous le coup d'une procédure de reconduite à la frontière ou d'expulsion du territoire national. Et l'une des mesures qui a retenu mon attention, c'est le paiement de la caution par les personnes donc qui sont appelées à être expulsées. Et là, j'ai en tout cas, compris que cette caution doit être adaptée à la situation de l'intéressé, c'est-à-dire qu'elle doit tenir compte des ressources de la personne concernée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette caution? Qu'est-ce que vous entendez par caution adaptée? Parce que je pense, par exemple, à la situation d'un travailleur migrant qui n'a pas de ressources, parce que ça peut arriver. Si la personne n'a pas de ressources, comment donc cette caution est gérée? Et si elle est fixée aussi, je voudrais, si vous pouvez nous dire à quoi cette caution est destinée. quel est son objectif, c'est pour servir à quoi, et est-ce qu'elle est remboursable? Et là, je fais le parallèle avec certaines cautions qu'on voit en justice et qui peuvent être donc remboursées à une personne qui est poursuivie. Donc, voilà en ce qui concerne la privation de liberté. Pour les droits des femmes, j'ai noté quelque chose que je pense qui est positif, en ce sens que au Venezuela, vous avez des juridictions qui sont spécialisées dans les affaires de violence à l'égard des femmes. Et à mon sens, c'est une bonne pratique. Est-ce que on pourrait en savoir davantage sur ces juridictions? Est-ce qu'elles sont animées par des juges qui ont une formation spéciale sur la question des violences basées sur le genre? Et si vous devez faire, par exemple, une comparaison avec les juridictions en général au Venezuela, est-ce que ces juridictions suscitent un plus grand intérêt que les autres? Ou bien, en tout cas, quel est à peu près le niveau de satisfaction du taux de saisine de ces juridictions-là? Et est-ce que les femmes migrantes, qui ont le Venezuela comme pays de destination, je veux parler donc des femmes migrantes étrangères, est-ce qu'elles y ont accès? Est-ce qu'elles ont connaissance que ces juridictions-là existent et qu'elles peuvent donc recourir à ces juridictions pour demander réparation lorsqu'elles sont victimes de violences basées sur le genre? Voilà quelques question que je voudrais adresser à la délégation tout en réitérant mes remerciements pour votre présence ici. Merci bien, Monsieur le Président.